Minet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec les archives du Monde 2, le procès de Nuremberg, 60 ans après.
Ce tribunal a reçu mission de châtier les criminels de guerre. C'est par ces mots, articulés d'une voix calme, que Lord Justice Lawrence a ouvert ce matin à Nuremberg le plus grand procès de l'histoire.
D'histoire. Il y a 60 ans, le 20 novembre 1945, à 10h du matin, dans la salle 600 du palais de justice de Nuremberg, Lord Geoffrey Lawrence ouvrait le plus grand procès de l'histoire. Devant lui, 21 des plus hauts dirigeants du Troisième Reich étaient inculpés de crimes de guerre, de crimes contre la paix, mais aussi d'un crime sans précédent dans l'histoire, le crime contre l'humanité. C'est-à-dire, préciser l'acte d'accusation, l'assassinat, l'extermination, la déportation et tout acte inhumain commis contre des populations civiles pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Jamais avant le 20 novembre 1945, on avait parlé de crime contre l'humanité. Jamais non plus on avait vu autant de journalistes dans un tribunal. Ce jour-là, ils étaient venus du monde entier pour assister à l'ouverture du procès des plus hauts responsables encore vivants du régime nazi.
Des maréchaux, des amiraux, des hommes d'État, des hauts fonctionnaires vont devant une cour internationale répondre non pas du crime d'avoir déclenché la guerre, nous n'en sommes pas encore là, mais du crime de l'avoir mené au mépris des lois humaines. Ils répondront des déportations, des massacres de civils, des vols, des pillages dont se sont rendus coupables ceux dont ils étaient les chefs et qui obéissaient à leurs ordres.
Anne Wiborka, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 60 ans, à quelques jours près, l'ouverture d'un procès unique dans l'histoire, un procès sans précédent et sans postérité. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez dans un livre, Le procès de Nuremberg, qui a été édité il y a quelques mois par le mémorial de Caen. Qu'est-ce qu'il avait de nouveau, de particulier et d'unique, ce procès de Nuremberg?
Ce qu'il avait de nouveau, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on jugeait les responsables et hauts responsables de la guerre. On les jugeait devant un tribunal international, puisque ces quatre puissances, les alliés, l'Union soviétique, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui les jugeaient, mais que 21 autres pays avaient ratifié les accords de Londres qui installaient le tribunal. C'est donc quelque chose qui a marqué réellement l'histoire, et notamment l'histoire du droit.
Parce que l'idée n'est pas nouvelle, vous le rappelez aussi, on avait déjà pensé à un tribunal international pour juger l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, pendant la Première Guerre mondiale.
Absolument. Le traité de Versailles comportait une clause, et Guillaume II devait être jugé. Or, Guillaume II n'a jamais été extradé, et son procès n'a jamais eu lieu aux Pays-Bas, où il est mort lors d'une autre guerre, il est mort en 41 aux Pays-Bas. Donc cette idée est une idée qui court depuis, disons, la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui cette fois-là est mise en acte.
Alors elle court aussi dès le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Churchill, crois, qui dès 41 dit « le châtiment des crimes doit être désormais un des objectifs de cette guerre ». Ça, c'était en octobre 41.
Absolument, absolument, parce que des informations proviennent notamment par les courriers de la résistance polonaise qui décrivent les massacres, et notamment les massacres de juifs. Donc il y a un certain nombre de réunions dès la fin 41, où on essaye, enfin, où les alliés, essentiellement les Britanniques et les Américains, essayent de faire des listes de criminels de guerre. Je voudrais ajouter quand même que le crime de guerre est quelque chose qui existe et qui commence à être défini depuis la fin du XIXe siècle. En règle générale, le crime de guerre sert à protéger, enfin, deux types de populations, les prisonniers de guerre et les populations civiles.
Alors, le crime de guerre, c'est être un des chefs d'accusation. Je crois que c'est en août 1945 qu'ils sont définis à la conférence de Londres, la conférence interalliée, qui définit donc ces chefs d'inculpation. Plan concerté de complot, crime contre la paix, crime de guerre, vous venez d'évoquer, et puis alors, crime contre l'humanité, ça c'est nouveau, hein,
voilà.
Totalement.
Alors, c'est nouveau, la notion existe déjà, certains ont qualifié dans le vocabulaire, mais pas juridiquement, le génocide arménien de crime contre l'humanité. Donc, la notion de crime contre l'humanité, qui n'est pas une notion juridique, est une notion qui a cours déjà avant le procès de Nuremberg. Là, ce qui est le plus étonnant, c'est que l'on ait besoin de trouver une nouvelle qualification, alors que si on regarde bien, si on compare le crime de guerre et le crime contre l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a recouvrement des deux.
Alors, on choisit aussi le lieu où aura lieu ce fameux procès, et on choisit Nuremberg en Allemagne. Pourquoi? On dit souvent que c'est parce que c'était évidemment un des sanctuaires du nazisme, là où il tenait son congrès régulièrement à Nuremberg.
Alors, d'abord, il y a un problème de zone. Les soviétiques auraient souhaité que le procès ait lieu à Berlin, dans leur zone d'occupation. Et de fait, ils ont gagné sur un point symbolique, puisque la séance inaugurale, le 18 octobre, a eu lieu à Berlin. Mais si Nuremberg, en zone d'occupation américaine, est choisi, c'est pour une raison tout à fait triviale. La prison, enfin un souterrain conduit de la prison au palais de justice, les deux sont pratiquement intacts, alors que les villes allemandes ont été bombardées, et le grand hôtel, lui aussi, est intact. Donc on a trois éléments qui vont permettre aux Américains d'installer ce tribunal.
Alors c'est là que donc à Nuremberg comparaissent 21 des 23 accusés, puisque Martin Bormann, qui est un des accusés, était en fuite, on ne l'a jamais retrouvé. Le docteur Ley, qui était également accusé, s'était suicidé dans sa prison, quelques jours donc avant l'ouverture de ce procès, le 20 novembre 1945.
Les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, conformément à l'accord de Londres en date du 8 août 1945 et du statut de ce tribunal annexé au dit accord, accuse par les présentes, pour les motifs exposés ci-après, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Schröder, Baldur von Schirach, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Zeissinquart, Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsch de s'être rendu coupable, individuellement ou en tant que membre des organisations dont il va être parlé, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, définis dans le statut du tribunal, ainsi que d'un plan concerté ou complot en vue de commettre ces crimes.
Et c'était le 20 novembre, donc, à Nuremberg, tout le gratin du régime nazi qui comparaissait devant ce tribunal, avec des noms qui ne disent pas forcément toujours quelque chose, en tout cas aux plus jeunes auditeurs. Il y avait, bien sûr, ceux-là sont connus, Göring, le numéro 2 du régime, Rudolf Hess et Bormann, qui étaient en fuite, donc qui étaient condamnés par contumace, mais qui étaient les successeurs désignés de Hitler, des militaires, Keitel, Jodl, Dönitz, Schröder, des responsables de territoires occupés, qui se sont montrés particulièrement violents pendant cette période de la guerre, Schirach en Autriche, von Neurath en Tchécoslovaquie, Rosenberg dans ce qu'on appelait les territoires de l'Est, Zeissinquart aux Pays-Bas, Frank en Pologne, des hauts fonctionnaires, Kaltenbrunner, on l'a entendu, qui était le chef de la sécurité du Reich, Speer, Schockel, qui était responsable de la déportation de la main-d'œuvre, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. Il manquait quand même les principaux, si je puis dire, mais qui n'étaient pas là parce qu'ils s'étaient suicidés, et on commençait par Hitler.
Oui, il manquait Hitler. Il manquait Himmler, le Reichsführer des SS, et il manquait Goebbels. Tous les trois s'étant suicidés, Hitler et Goebbels dans le fameux bunker de la chancellerie à Berlin, et Himmler en croquant une capsule de cyanure après son arrestation par les Américains. Petit détail, dans la liste, on entend Krupp. oui. le nom de Krupp. Or, Krupp figurait effectivement sur la liste des inculpés, mais il s'était trompé. Oui. Voilà, oui. Mais il s'était trompé. Ils avaient mis le vieux Krupp, qui était sénile, si bien qu'il y a eu de très longues discussions pour savoir si on pouvait faire comparaître quelqu'un de sénile. La réponse a été non. Si on pouvait le remplacer par son fils, la réponse a aussi été non. Et le fils a été jugé lors d'un des procès successeurs, qui est le procès des industriels.
Alors, ces procès se déroulent donc devant un tribunal composé de représentants de 4 pays seulement. C'était les États-Unis, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne. On peut être étonné de voir l'absence, ou plutôt de l'absence, de pays qui ont terriblement souffert aussi du régime nazi quand ils ont été occupés. Je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Bas, par exemple, à la Grèce.
Oui, parce que ces pays ont été signataires des accords de Londres, donc ils étaient représentés par les 4 autres, excusez-moi, puissances. Par exemple, la France a mené l'accusation au nom de la France, mais aussi de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire des Pays-Bas, de la Belgique. Donc l'ensemble des pays impliqué dans la guerre a été représenté à ce tribunal. Enfin, l'ensemble des pays victimes, hein, pas.
Alors cela dit, ce sont les 4 principaux donc qui sont représentés par 8 juges, 2 pour chacun de ces 4 pays, États-Unis, URSS, France et Grande-Bretagne, qui également ont 4 procureurs généraux. Et le tribunal était présidé par Lord Geoffrey Lawrence, qui après la lecture de l'acte d'accusation demandait aux accusés s'ils plaidaient coupables ou non coupables.
Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables.
Wilhelm Göring.
Göring le premier. Il amorce un discours.
Gerichtshofes beantwortet. Ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne.
Mais le président leur appelle à la question. Coupable ou non coupable?
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf Hess.
Nein.
Ribbentrop.
Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Keitel.
Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig.
Von Papen.
Bekenne mich keinesfalls schuldig.
L'audience est suspendue. Le procès sera long. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue.
Et c'était le commentaire du deuxième jour, je crois, du procès de Nuremberg, à Nervevorka, un commentaire d'époque, on peut comprendre ce que l'on a entendu. Ce qui évidemment peut surprendre aujourd'hui avec du recul, c'est que aucun des 21 accusés présents n'a reconnu sa culpabilité. Tous se défaussent en quelque sorte sur les ordres reçus.
Oui, tous se défaussent sur les ordres reçus. Pas complètement. Par exemple, Göring ne se défausse sur rien du tout. C'est-à-dire Göring assume ce qu'a été l'aventure du Troisième Reich. Je crois aussi qu'il faudrait peut-être être un tout petit peu plus nuancé. On est dans un procès, donc ils plaident non coupables. Certains d'entre eux auront même une stratégie, c'est le cas par exemple de Hans Frank qui retrouve dans sa cellule la foi catholique.
Ancien gouverneur de la Pologne, voilà. Hein, qui a particulièrement souffert. Oui.
Ou de Speer, qui va reconnaître une partie de ses responsabilités et qui sauvera d'ailleurs très probablement sa tête en ayant cette attitude. Et Speer est un de ceux qui considérait que la monstration des crimes qui étaient ceux du Reich, dont il affirmait n'avoir pas tout su ou n'avoir pas pris conscience de leur totalité, faisait peser sur l'Allemagne l'opprobre indéfini.
Là, vous évoquez effectivement le moment très fort où on a visionné, on a montré des films de la libération des camps quelques mois plus tôt. Parce que ce procès, il y a eu quelques moments forts, mais il a été très long, vous le rappelez, au point d'ailleurs d'être ennuyeux. Il a duré quand même plus de 10 mois, à Nuremberg.
Il a été mortellement ennuyeux, ennuyant les inculpés qui risquaient leur vie, mais qui dormaient derrière leurs lunettes noires, ennuyant les journalistes, puisque les centaines de journalistes présents lors de l'ouverture finissent par partir. Donc ça a été un procès qui a été un vrai procès, mais qui ne cherchait pas l'émotion ou, on dirait, pour employer un anachronisme, la médiatisation.
Mais il y en a eu quand même de l'émotion, il y a eu ces passages, ces films que l'on montre comme ça, devant les accusés. Certains, d'ailleurs, même, ont fait preuve de remords. C'est assez extraordinaire. Vous citez, par exemple, Fritsch qui dit, qui était un des accusés, « Aucune puissance céleste ou terrestre n'effacera cette honte de mon pays, pas au cours des générations, pas même au cours des siècles. » Et Saukel, qui était le responsable de la déportation de main-d'œuvre, qui dit, en voyant ces films, c'est une honte pour nous et pour nos enfants. Il y avait quand même des remords.
Absolument, absolument. Certains des accusés ont pris brièvement, ou pour certains d'autres, bon, comme Sperk, qui a survécu, qui a pas été condamné à mort, conscience de quelque chose par l'intermédiaire de ces films.
Ça, c'est l'aspect pédagogique, vous le soulignez bien.
Absolument.
C'est ça qui est aussi l'autre importance du procès. Il ne s'agit pas seulement de juger des gens, mais de montrer ce qui s'est passé, même s'il y a pas mal d'inexactitudes. Je crois que dans ces films, par exemple, on dit ce qui était faux, qu'il y avait des chambres à gaz à Buchenwald. On ne fait pas la distinction entre camp d'extermination et camp de concentration.
Absolument. On retrouve finalement dans ces films la confusion des actualités filmées de la libération, où les films sont mal localisés, mal légendés, où le commentaire ne colle pas forcément à la réalité. Mais pour l'époque, disons que l'impact, la puissance de ces images est formidable. Maintenant, ces images ne sont pas des preuves au sens juridique du terme. Hein. Je regardais le dossier du Monde. Le dossier du Monde dit que l'accusation est étayée par les films, et je pense que c'est une bonne expression.
Alors, il y a aussi des moments forts. Il y a eu, par exemple, le très long, pendant 8 jours, Göring, au mois de mars 1946, se met à parler, à expliquer ce qu'il a fait. C'était la vedette du procès.
Vedette du procès. Bon, d'abord, après le suicide des trois autres grands dirigeants, c'était vraiment le plus haut dirigeant, et il vient en tête. Et lui a pris pour parti de défendre le Reich de Milan. Il a pris parti, et pour le moment il s'est trompé, de dire que l'histoire retiendra leur nom, ce qui est vrai, mais retiendra l'épisode du nazisme comme un moment glorieux de l'histoire du monde, comme si le nazisme n'était pas définitivement écroulé.
Alors ça fait partie des moments forts. Il y a aussi des moments où des choses qui ont été quand même occultées. Prenons un exemple, puisqu'ils sont accusés de crimes contre la paix, on revient en arrière sur ce qui a précédé la guerre, mais on ne parle à aucun moment du pacte germano-soviétique. Évidemment, c'est embarrassant pour l'URSS. C'est vraiment, on l'a fait de reproche à ce procès d'ailleurs, le procès des vainqueurs, Lev Vorka.
C'est effectivement le procès des vainqueurs.
Enfin, des vaincus par les vainqueurs.
Bon, il ne peut pas y avoir de procès si les accusés ne sont pas pris, hein, ou alors c'est que de la contumace. Mais c'est quand même un vrai procès, un procès loyal. Alors, probablement que les deux critiques principales qui ont été faites au procès, c'est crime contre la paix, oui, mais pacte germano-soviétique, on en parle d'ailleurs au procès, mais on le fait disparaître, c'est-à-dire qu'il est évoqué, mais il n'est pas retenu, tout simplement parce que l'Union soviétique a envahi la Pologne 17 jours après l'Allemagne, et qu'ils se sont partagés ce pays. Donc s'il y a crime contre la paix...
C'était du temps où l'URSS et l'Allemagne étaient complices, sinon...
Absolument. Et puis il y a aussi, entre autres, le massacre de ces 15 000 officiers polonais, dont plus de 4 000 dans les fosses de Katyn.
Alors qu'il s'agit d'un crime
de
guerre.
Et le cynisme de Staline, c'est de faire porter le crime de Katyn par les Allemands. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire inscrire Katyn dans l'acte d'accusation. On peut dire qu'au procès, la vérité se fait jour, puisque Katyn disparaît du jugement.
On peut même dire, c'est Casamayor qui était présent au procès.
Absolument.
Qui disait, après tout, les crimes de guerre, c'est bien gentil, mais il y en a eu des deux côtés. Il évoquait même les bombardements de villes allemandes pendant la guerre.
C'est vrai que si on définit absolument, civils, absolument,
militaire à Dresde.
Absolument, absolument. Mais je pense quand même que dans cet excès de comparaison entre les crimes des uns et des autres, il y a quelque chose qui ne tient pas, parce que il y a guerre d'agression. Effectivement. Et il y a une amplitude de la criminalité nazie, y compris dans le champ des bombardements. Il faut se rappeler Coventry, Londres, qui justifie cela.
Alors tout ça n'a pas entamé la détermination des juges qui rendaient leur verdict le 1er octobre 1946.
Tout d'un coup, la porte s'ouvre. Deux MP entrent dans le box. Göring les suit. Se place face au tribunal. Met les écouteurs à ses oreilles et attend au garde à vous.
Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
Selon les chefs d'accusation qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. La porte s'est ouverte à nouveau, c'était Rudolf Hess qui entre, qui ne prend pas les écouteurs, regarde en l'air. Il est condamné à l'internement à vie. Le défilé continue. Puis, voici Keitel. Il est au garde à vous. Selon les chefs d'accusation qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. Voici Rosenberg.
Alfred Rosenberg. The tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Hans Frank.
Death by hanging, la mort par pendaison, ce sera la sentence pour 12 des inculpés, mais il y aura aussi 7 peines de prison, 3 acquittements, d'ailleurs, Papen, dont on lui parlait, qui était le chancelier puis le vice-chancelier, mais avant la guerre. Là, les soviétiques n'étaient pas contents,
les Alliés. Ah, les soviétiques étaient furieux, les soviétiques considéraient que tout le monde devait être condamné à mort.
Et alors, il y a aussi eu des procès successeurs, il y a eu des jugements, hein, après le jugement des principaux responsables, celui des médecins, des juristes, des industriels, des diplomates, au total 5000 personnes, dont 800 condamnées à mort, et pour un procès qui, dans l'esprit des juges de 1945 et 46, devait être exemplaire.
Il est juste que les coupables soient frappés, et il est permis de penser que le châtiment aura, dans le cas présent, une valeur singulièrement exemplaire. Si la folie des hommes voulait que quelque jour un nouveau conflit vînt à éclater, ceux qui seraient tentés de renouveler les crimes qui ont été commis par les puissances de l'Axe et singulièrement par l'Allemagne, en seraient sans doute empêchés si le verdict de Nuremberg a été assez rigoureux pour qu'il soit impossible d'en perdre le souvenir.
Alors, on n'a pas oublié Nuremberg, bien sûr, mais il faut dire que depuis 45, vous l'écrivez, vous le dites, Annette Evorka, on n'en a pas forcément tiré la leçon, et cela malgré la création, très longtemps après Nuremberg, c'est en 93, d'un autre tribunal, le tribunal pénal international.
Je serai moins négative maintenant. Je pense qu'après la chute du communisme, avec l'installation des deux tribunaux ex-Yougoslavie et Rwanda, on s'aperçoit que la justice est de plus en plus fréquente. Procès de Saddam Hussein, bon, il y a beaucoup de choses
mais
à dire.
C'est pas un tribunal international.
C'est pas un tribunal international. Mais installation du TPI, du tribunal international, ces dernières années. On a pensé, les juristes ont pensé que Nuremberg avait été le droit d'un moment. Et aujourd'hui, il pense que Nuremberg a été un moment du droit, c'est-à-dire que le droit de Nuremberg a servi donc aux deux cours pénales et au tribunal pénal international. Donc je crois que l'idée d'une justice, l'idée de juger les responsables de la guerre, est quelque chose qui a fait son chemin, disons, ces 15 dernières années.
Parce que quand même, il y a eu aussi beaucoup de génocides, de crimes épouvantables, qui n'ont pas été... du tout, dont les responsables n'ont pas été traduits devant un tribunal.
Absolument.
C'est quand même très, aujourd'hui, c'est très contesté, on s'en rend bien compte. On ne sait pas très bien ce que devient le tribunal qui est en train de juger Milosevic, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec les responsables du génocide au Rwanda. C'est quand même, vous êtes optimiste, mais enfin, vous l'étiez pas il y a quelques années.
Non, je n'ai pas dit que j'étais optimiste, je me disais que j'étais un petit peu moins, pessimiste, qu'il y a 10 ans. Et ma diminution du pessimisme vient aussi de cette grande enquête qui montre que le nombre de guerres a diminué, que le nombre de morts par guerre a diminué, que le nombre de génocides a diminué. C'est-à-dire que contrairement au sentiment que l'on a, la violence de masse liée à la guerre ou liée au génocide n'est pas quelque chose qui s'accroît ces 10 dernières années.
Nuremberg reste le plus grand procès de l'histoire, comme on a entendu au tout début de l'émission.
Oui, mais la Seconde Guerre mondiale reste aussi le plus grand conflit de l'histoire.
Merci Anne Wieworka. Je rappelle que vous êtes l'auteur du procès de Nuremberg, réédité cette année par le Mémorial de Caen. Vous êtes également l'auteur de Auschwitz, 60 ans après, chez Robert Laffont, pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu en début d'année. À lire Le Monde 2 de ce week-end, avec lequel nous étions en partenariat, et qui consacre son dossier archive au procès de Nuremberg avec des photos étonnantes. Enfin, à lire aussi « Survivre avec Auschwitz en mémoire » de Maurice Rachfus, publié avant-hier chez Ligne. De nombreux événements ont lieu, bien sûr, autour du 60e anniversaire du procès de Nuremberg. L'exposition, par exemple, « Procès de Nuremberg » au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 30 décembre. Et puis, à la télévision, je conseille la chaîne Histoire, le film « Le jugement à Nuremberg » de Stanley Kramer, qui sera diffusé le 22 à 12h30. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 45, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références et d'autres informations par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clément Léotard, Claire Tesser et Camille Pourchelaguier et à notre réalisatrice Anne Comilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, jour du premier épisode des Rois Maudits sur France 2. Jean-Favier viendra nous parler du premier d'entre eux, Philippe Lebel. Mardi, le père du surréalisme, André Breton. Mercredi, d'où viennent les Français. Jeudi, une histoire du mal de vivre. Enfin, vendredi, un événement totalement oublié de la Première Guerre mondiale. Un extraordinaire Noël de fraternisation dans les tranchées en 1914. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
Merci Patrice Gélinet, à lundi.
J'irais bien reprendre un coup du côté de chez Stéphane.
Wow. En commémoration du décès de notre chanteur favori,
puis pas moi.
Manina, rappelle-toi.
Arrête. Ça lit pas ses mémoires.